France Culture, il est 12h30. Tout de suite, le journal avec Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Tiffen, bonjour à tous. Après le Koweït, c'est à la Turquie d'essayer de jouer un rôle de médiateur dans la crise entre le Qatar et ses voisins du Golfe. Cela fait depuis début juin que l'Émirat est boycotté par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Le président turc Erdogan veut tenter d'apaiser les choses. Il démarre une tournée aujourd'hui dans la région. Nous entendrons les explications de Nabila Hamel à ce sujet. Au sujet du Proche-Orient, c'est l'Organisation des Nations Unies qui essaye de pacifier la situation. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est convoquée à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte pour demain. Depuis une semaine, les affrontements sont quotidiens entre forces de sécurité israéliennes et manifestants palestiniens. Marine Vlaovic, notre correspondante sur place, nous en dira plus. En France, le gouvernement essaye de calmer le jeu avec l'armée. La ministre de la Défense, Florence Parly, annonce le dégel d'1,2 milliard d'euros de crédits. C'est une somme qui devait être versée en fin d'année et qui donc finalement est débloquée tout de suite. David Ravier nous dira pourquoi. Et puis en France, toujours la baisse des APL. Les aides au logement font réagir. De nombreuses associations mais aussi des députés s'expriment sur le sujet. Ils déplorent que l'on s'attaque au portefeuille des étudiants qui sont déjà souvent bien démunis. Comment dénouer la crise entre le Qatar et ses voisins, notamment l'Arabie Saoudite? Le Koweït a déjà essayé de se poser en médiateur et aujourd'hui c'est la Turquie qui tente donc de jouer ce rôle du pacificateur. Le président Erdogan est attendu aujourd'hui à Riyad, il va se rendre ensuite à Doha et au Koweït. Son objectif, essayer donc de faire évoluer cette situation qui est bloquée depuis début juin. Nabila Hamel.
Le président Tayyip Erdogan arrivera-t-il à convaincre les monarchies pétrolières du Golfe de mettre fin à une crise qui n'a jamais connu une telle ampleur? Le Koweït, pays arabe membre du Conseil de coopération du Golfe, s'y est essayé sans grand résultat concret, puisque le blocus est toujours appliqué au Qatar. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui veut user de son statut de puissance régionale non arabe mais sunnite pour réconcilier les frères ennemis. L'exercice relève de l'équilibrisme, car Ankara, qui a des liens privilégiés avec le Qatar, entretient également de bonnes relations avec les dirigeants saoudiens, ce qui ne l'a pas empêché, sans citer Riyad, de qualifier d'inhumaines les sanctions imposées à Doha. Dès le début de la crise, Ankara a envoyé des produits alimentaires à l'émirat gazier pour le soulager du blocus. Bien plus, la Turquie a validé un accord de 2014 en vertu duquel elle peut envoyer des troupes sur sa base militaire au Qatar. Une décision très mal vue par les adversaires de Doha. Du coup, la fermeture de la base turque faisait partie des 13 conditions présentées au Qatar pour une normalisation. Pour Tayyip Erdogan, ces exigences sont contraires au droit international. Il ajoutera au passage, pas question pour nous de demander une quelconque permission pour coopérer en matière de défense avec un pays. Le président turc veut jouer un rôle constructif et actif dans une crise qu'Ankara estime dénuée de sens. Sa tournée de 2 jours le mènera en Arabie Saoudite, au Koweït et au Qatar.
Le président Erdogan qui déclare aujourd'hui, je cite, « Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage. Le monde musulman a besoin de coopération et de solidarité. Pas de nouvelles divisions. » Fin de citation. Une autre crise qui doit être dénouée urgemment, c'est bien sûr celle du Proche-Orient. Les affrontements sont toujours quotidiens entre forces de sécurité israéliennes et manifestants palestiniens. En cause, la décision de l'État hébreu de placer des détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Depuis vendredi, ce sont 5 Palestiniens et 3 Israéliens qui ont trouvé la mort. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain et aujourd'hui, le gouvernement israélien doit aborder le sujet au cours d'une réunion. Marine Vlaovic.
Ce sont des autorités israéliennes sous pression qui doivent discuter de la crise de l'esplanade des mosquées lors d'une réunion du cabinet de sécurité qui devrait se tenir en fin d'après-midi. Le gouvernement israélien pourrait examiner des alternatives aux détecteurs de métaux contestés installés par Israël aux abords du lieu saint il y a une semaine, sans pour autant céder sur l'existence de mesures de sécurité considérées comme indispensables selon l'État hébreu. Pas sûr donc que cette réunion puisse endiguer la colère de la rue palestinienne. La journée d'hier a une nouvelle fois été marquée par des violences meurtrières. Des affrontements ont éclaté dans les quartiers de Jérusalem-Est, ainsi que dans plusieurs villes de Cisjordanie, notamment aux abords des checkpoints israéliens. La communauté internationale s'inquiète de cette escalade de la violence. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain en urgence pour évoquer cette crise. Le quartet pour le Moyen-Orient a également appelé au calme en invitant les Israéliens et les Palestiniens palestiniens à faire preuve de retenue et à travailler en vue d'une désescalade.
Marine Vlaovic, qui est donc notre correspondante sur place. L'Indonésie veut intensifier la lutte contre le trafic de drogue, quitte à aller extrêmement loin. Le président indonésien Joko Widodo ne s'embarrasse pas de demi-mesures. La police, dit-il, doit désormais tirer sur les trafiquants de drogue présumés si jamais ils s'opposent à une arrestation. Voici ses mots précis, je cite. Soyez fermes, surtout avec les trafiquants étrangers qui entrent dans le pays. S'ils résistent même un tout petit peu, tirez. Fin de citation. La déclaration évidemment suscite déjà un tollé chez les défenseurs des droits de l'homme. L'association Human Rights Watch est déjà montée au créneau pour dénoncer ces propos. Selon les chiffres officiels, l'archipel indonésien compte 6 millions d'usagers de drogue. Tout passeur trouvé en possession de 5 grammes ou plus est passible de la peine de mort. 1,2 milliard d'euros de crédits vont être dégelés pour l'armée française. C'est ce qu'annonce aujourd'hui dans une interview au journal du dimanche la ministre de la Défense Florence Parly. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, c'est une somme qui normalement devait être versée en fin d'année et qui finalement sera donc restituée par anticipation dès ce mois-ci. L'objectif, c'est que la baisse du budget décidée par le gouvernement n'ait pas d'impact pour le fonctionnement des armées. Les précisions de David Ravier.
La priorité de la ministre, c'est de garder le fonctionnement des armées intactes malgré la coupe budgétaire à venir de 850 millions d'euros. Pour Florence Parly, il n'est pas envisageable que ces questions d'argent viennent amputer le travail des militaires qui sont déjà en opération. Le déblocage de ces 1,2 milliard d'euros permettra donc de se concentrer sur l'essentiel et de maintenir une présence solide sur le terrain. Cette somme, qui devait être normalement versée en fin d'année, est débloquée maintenant pour permettre d'aller au plus urgent. L'annulation des 850 millions d'euros dans le budget de l'armée n'était pas prévue et le dégel avancé de ce milliard d'euros viendra en partie compenser cette perte. Dans son interview au JDD, la ministre des Armées laisse d'ailleurs entrevoir où se feront ses futures économies. Elles seront réparties sur les grands programmes d'équipement militaire qui seront mis en suspens pour cette année. Reste que ce déblocage a surtout pour but de jouer la montre puisqu'il retarde le creux financier que pourrait subir l'armée dans les prochains mois. Creux financier qui d'ailleurs devrait être rapidement compensé l'année prochaine avec l'augmentation du budget de l'armée de 1,8 milliard d'euros, une manière en somme de rendre quasiment indolore pour les militaires la coupe budgétaire de cette année.
David Ravier, la baisse des aides au logement annoncée hier par le gouvernement suscite déjà de nombreuses réactions. Les APL vont donc diminuer de 5 euros par mois dans un souci d'économie à partir du mois d'octobre. La FAGE, syndicat étudiant, demande au gouvernement de revenir sur cette mesure et de ne pas matraquer le portefeuille des étudiants. Même au sein de La République En Marche, certains députés font connaître leur inquiétude. Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, tweet ceci, je cite, « 5 euros par mois pour les étudiants les plus précaires, ce n'est pas neutre. Trouvons d'autres moyens pour les aider spécifiquement. » Fin de citation. Quant à Christophe Robert, qui est délégué général de la Fondation Abbé Pierre, eh bien, il estime que la baisse des APL est un mauvais signal adressé aux personnes les plus modestes. On l'écoute.
Ça fait des années qu'on réduit la voilure sur les APL. Donc du coup, ces aides au logement ont décroché par rapport à la réalité des loyers, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas suivi l'évolution des loyers, ni l'évolution des charges. Et puis on a aussi réduit la voilure en faisant qu'on limite le nombre finalement de personnes qui peuvent bénéficier de ces aides au logement. Pour vous donner une idée, quand vous êtes une personne seule qui avait plus d'un SMIC, vous n'avez pas les aides au logement. Si vous êtes un couple avec deux enfants, au-delà de deux SMIC, vous ne les avez pas. Donc ces 60 euros par an qui font 400 millions d'euros d'économies, eh bien, elles viennent s'ajouter aux économies qui ont été réalisées ces dernières années. Donc c'est une perte de solvabilisation pour des ménages pauvres et modestes, et c'est surtout un très mauvais message. Ça veut dire que on dit à des gens qui ont déjà peu de ressources, eh bien écoutez, vous allez en avoir encore un petit peu moins.
Propos recueillis par Rémi Inc. Paris devient aujourd'hui la capitale de la lutte contre le sida. C'est l'ouverture de la conférence internationale de recherche. Quelques 6000 experts se réunissent au Palais des Congrès jusqu'à mercredi. Alors cette année, la conférence est marquée par de nombreuses craintes. Les organisateurs ont déjà publié une déclaration de Paris dans laquelle ils font état de leurs grandes préoccupations. Pas de fin du VIH sans la recherche et pas de recherche sans des investissements pérennes, c'est ce qu'affirme le texte. La politique de Donald Trump est ainsi pointée du doigt. Le président des États-Unis souhaite réduire dans son budget 2018 les dépenses qui sont liées à la lutte contre le sida. Or, les États-Unis sont historiquement le plus gros contributeur. Les coupes envisagées par l'administration Trump pourraient ainsi priver de traitement quelque 830 000 patients, essentiellement africains. C'est ce qu'estime l'association américaine Kaiser Family Foundation. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 18h. Le ciel d'aujourd'hui est pluvieux sur le nord-ouest. Des averses sont également à prévoir dans l'après-midi dans le secteur Loire-Atlantique, Charente-Maritime. Des orages pourraient éclaté sur les Pyrénées-Orientales. Partout ailleurs, ce devrait être plus calme, ensoleillé même du côté du sud-est. Température annoncée pour cet après-midi, 18 à 24 degrés sur le nord, jusqu'à 33 degrés en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. Il a été réalisé par Anthony Thomasson.